Ce matin, nous avons vu que ce qui était à la source ou l'origine de la souffrance, c'était la confusion ou l'ignorance. Et on a quelques éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'on veut dire par là. L'ignorance ou la confusion, c'est ce qui prend le relatif pour ultime. Quand on a affaire à des phénomènes relatifs et on pense que dans le fond ils existent ultimement ou réellement, à ce moment-là, il y a cette confusion qui nous enferme. Et que la liberté va venir du fait de ne plus adhérer à cette confusion, de ne plus prendre le relatif pour l'ultime. Et il y a un phénomène très important que l'on prend pour ultime et qui n'est que relatif, peut-être le point le plus important, ce qui est essentiel dans la pratique, c'est de prendre le « moi » et « je » comme ultime alors que c'est que relatif. Et quand on pense qu'il existe ultimement, à ce moment-là, on est vraiment pris sous l'emprise de la vérité de la souffrance. Parce qu'à ce moment-là, quand on prend ce jeu relatif pour ultime, alors on est soumis à la vieillesse, à la maladie et à la mort. On est soumis de manière réelle ou de manière ultime. Donc dans la tradition bouddhique, le fait de questionner ce moi ou ce je pour essayer de se rendre compte que ce n'est pas un phénomène ultime, mais que relatif ou conventionnel, ceci joue un rôle très important. Et évidemment, ce questionnement est assez difficile puisqu'il touche quelque chose qui est tellement proche de nous. Comment mettre en question ce je ou ce moi, puisqu'on a l'impression que ça va toujours être le je ou le moi qui parle quand il se met en question. Donc, il est déjà assuré de sa propre existence puisque c'est lui qui s'exprime. Vous voyez la difficulté, on a l'impression que quelle que soit la manière dont on essaie de trouver la manière de questionner ou d'aborder le problème, on l'aborde déjà en affirmant la propre existence. Et, si je médite, c'est bien moi qui médite, donc comment je peux mettre en question le moi? Et à ce moment-là, on va avoir des difficultés. Il s'agira de trouver une manière de pouvoir mettre entre parenthèses cette certitude du je, du moi, pour pouvoir vraiment questionner son degré d'existence. Maintenant, souvent, on a l'impression que ceci est spécifique au bouddhisme, parce que le bouddhisme l'exprime de manière très claire, mais ceci traverse toute la pensée occidentale aussi. Dès que quelqu'un essaye de saisir le moi ou le je, pour voir est-ce qu'on peut vraiment avoir quelque chose entre ses doigts, eh bien, on se rend compte que, alors quelle que soit la tradition, qu'on se trouve tout de suite devant des difficultés. Je rappelle cette citation de saint Augustin qui disait « Quand je cherche le moi, il parle de l'ego, donc en moi-même, je ne trouve rien que la lumière divine. » Ici, il veut parler de la conscience. Il le cherche à l'intérieur de lui-même, il ne trouve rien. Et non pas parce qu'il ne sait pas chercher, non pas parce qu'il se tromperait, mais simplement parce qu'il questionne ici d'une manière qui est une manière ultime pour voir enfin d'analyse qu'est-ce qu'on trouverait. Il ne trouve rien. On pourrait citer ici, on peut citer de nombreux philosophes, David Hume et autres, mais là j'ai pris une petite citation de Camus, qui évidemment l'emprunte aussi à d'autres, mais il dit « Car si j'essaie de saisir ce moi, si j'essaie de le définir, et de le résumer, il n'est plus que de l'eau qui coule entre mes doigts. » Il dit « Je puis dessiner un à un tous les visages qu'il sait prendre, tout ce que je lui ai donné, mais on n'additionne pas des visages. » Il dit « Entre la certitude que j'ai de mon existence et le contenu que j'essaie de donner à cette assurance, le fossé ne sera jamais comblé, pour toujours je serai étranger à moi-même. » Donc il exprime bien ceci, dès qu'il essaye de dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce moi ou ce je, qu'est-ce qui peut être là pour témoigner, pour répondre à ce je et ce moi ?» Alors là, c'est plus difficile. Donc à nouveau, je ne vais pas faire l'inventaire toutes les manières dont les philosophes occidentaux ont abordé cette question, mais elle est là. Donc ce n'est pas en propre au bouddhisme. Dans les sutras anciens, il y en a un qui illustre bien ceci, c'est des ascètes qui abordent un des principaux disciples du Bouddha, qui était un des premiers disciples, Anuradha, et ils viennent lui poser une question. Ils disent, est-ce que le Bouddha existera après sa mort? Ça semble une question importante parce que toutes ces pratiques auxquelles le bouddhisme nous engage, donc voilà, est-ce que le Bouddha existera après sa mort? Et Anuradha dit, on ne peut pas dire ceci. Alors, est-ce qu'il n'existera pas après la mort? Et il dit, on ne peut pas dire ceci. Alors, il dit, alors il existera, il n'existera pas. Puis il dit, on ne peut pas dire ceci. Alors, pour compléter le questionnement, alors on peut dire, on niera qu'il existera ou qu'il n'existera pas. Il dit, on ne peut pas dire ceci. Et ces ascètes sont fâchés, le traite de débutant et autres, c'est un des principaux disciples du Bouddha, un des cinq premiers disciples, quelqu'un d'extrêmement brillant, donc voilà, ils s'en vont fâchés. Et puis Anuradha se pose la question, il dit, dans le fond, où est-ce que j'ai mal répondu? Il pose une question tout à fait sincère en disant, j'ai pas su répondre à cette question, puisqu'ils s'en vont fâchés, donc j'ai pas pu rendre compte, dans le fond, de quelque chose qui comprenait Anuradha, il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais il a pas su répondre. Et quand on se pose la question, où est le problème dans sa réponse? Qu'est-ce qui poserait problème? C'est qu'en disant on ne peut pas dire ceci, il a laissé supposer qu'on pourrait dire autre chose. C'est pas tellement que ces réponses sont fausses, mais il a ouvert la porte à on aurait pu glisser une sorte d'autre solution. Parce que quand il va voir le Bouddha et puis il lui raconte ce qui s'est passé, donc, sur ce questionnement si le Bouddha existera après la mort ou pas, le Bouddha qui est face maintenant à Anuruddha, et maintenant qu'ils sont face à face, il lui dit alors, où peux-tu trouver le Bouddha? Est-ce qu'il est dans le corps? Est-ce que le corps est le Bouddha? Alors Anuruddha dit non, on ne peut pas dire ceci. Alors, est-ce que les perceptions du Bouddha sont le Bouddha? Il dit non, le mental, non, la conscience, non, disons, les émotions ou les sensations, non. Il dit alors c'est le tout. Il dit non, on ne peut pas dire ceci. C'est pas. Alors, le Bouddha dit, je t'interroge alors que je suis en face de toi et tu ne peux pas trouver de Bouddha. Comment tu veux te poser la question où il sera après sa mort? Il faudrait déjà savoir quand il est en vie, où est-ce qu'il sera. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quelquefois on pose les questions de la réincarnation, qu'est-ce qui va se réincarner, etc. Il faudrait déjà savoir qu'est-ce qui est incarné. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dont on peut parler de la réincarnation? Et ça, c'est important parce qu'autrement, si on commence à faire des sortes de. On part dans une vision un peu confuse et après on essaie de la justifier, alors on s'engage dans quelque chose de compliqué. Donc, lorsqu'on essaye de questionner. Vous voyez, ce questionnement, il vise une vérité ultime. Au niveau ultime, on veut savoir est-ce que ce moi ou ce je, il existe de manière ultime comme. Dans ce qu'on a vu avant, on pourrait dire comme les quatre grands éléments, l'élément de feu, eau, terre, air. Est-ce qu'il y a un atome, il correspond à quelque chose au-delà de quoi on ne pourrait pas passer? On dirait, tiens, voilà, ça je l'ai isolé, on a compris ceci, là, voilà, maintenant je peux vous montrer ce qui vraiment est là et qui peut témoigner, ça c'est le moi ou le je, qui serait donc au niveau ultime. Ou est-ce que c'est simplement une transposition de quelque chose? Juste au niveau de la transposition, mais qu'une transposition, comme le souvenir du coucher de soleil n'est que le souvenir et pas le coucher de soleil. Alors est-ce que ce moi et ce je, ce n'est qu'une transposition, mais que si on essaie de voir ce qu'il transpose, alors à ce moment-là, il n'y a pas de moi ou de je. Il transpose quelque chose qui n'est pas le moi ou le je. Autrement, ça serait quelque chose d'ultime. Ça, c'est un aspect important. C'est d'ailleurs dans la manière dont nous méditons, ça questionne exactement ceci. Si on s'appuie trop sur le je ou sur le moi dans la méditation, je médite, je vais y arriver, etc., c'est comme si on le maintient toujours là comme une certitude sur laquelle on s'appuie pour méditer, et ceci va poser un problème, parce qu'on ne va pas le questionner. Mais de quoi est-ce que ce je ou ce moi peut être la transposition. Donc je et moi ici sont équivalents, c'est la grammaire qui va déterminer quel terme on utilise, mais ceci se réfère, c'est une même manière de transposer quelque chose. Quand le Bouddha questionne, il dit est-ce que le corps est le Bouddha? Alors le corps est déjà, le corps du Bouddha ou le corps d'une personne, est déjà quelque chose qui est une vérité relative dans le sens où évidemment le corps il est composé de beaucoup de choses. Il n'y a pas un atome qui est corps, il n'est pas fait le corps de millions d'atomes qui seraient le corps. Le corps est composé de beaucoup d'éléments différents, donc c'est déjà une manière de transposer quelque chose, qui est une transposition judicieuse, mais qui n'est pas une vérité ultime. Oui, si on se disait, tiens, le corps dans le fond est la personne, le corps est moi, je suis ce corps. Cette identification qu'on peut avoir au corps et qu'on a évidemment de manière intense. Ce qui fait qu'évidemment le vieillissement, la maladie, tout ça, c'est douloureux parce qu'il y a cette identification. Si on se pose la question, le je ou le moi, je peux dire je ou moi avec le même droit par rapport à moi quand j'avais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est moi. Je ne peux pas dire non, c'était quelqu'un d'autre, mais enfin quand même, je le connaissais bien parce que voilà. Non. Donc, ce terme moi, je peux l'appliquer à différentes instances de ma vie avec la même assurance. Et pourtant, ce qui me constitue a changé complètement, psychologiquement, physiquement. Je crois qu'on dit que tous les 7 ans, toutes les cellules ont changé. Donc voilà, ça a bien changé depuis. Il n'y a plus une cellule qui est là d'origine. Tout a changé. Psychologiquement, il y a un petit peu de changement aussi. Donc, tout a changé. Et pourtant, ce terme je et moi semble, lui, être là. Il n'a pas changé. Donc on voit bien, c'est comme quand j'entre dans la salle de méditation, la salle ne change pas et pourtant l'expérience change d'instant en instant. C'est donc bien quelque chose qui est là au niveau de la transposition du concept, qui reste stable par rapport à quelque chose qui change d'instant en instant. Donc si je me posais la question de je ou moi, quel âge ça a? Est-ce que c'est à mon âge actuel? Ça veut dire que j'avais un problème quand j'avais 5 ans parce que j'avais déjà 60 ans, 65 ans. Donc non, je n'ai pas d'âge. C'est une transposition, une manière de parler de quelque chose. Mais on ne peut pas dire que je a un âge spécifique et qui serait exactement l'âge à laquelle on se trouve. Parce qu'à ce moment-là, ça nierait tous les... Ça n'aurait pas pu s'appliquer aux âges précédents. Une anecdote assez amusante est que... Lorsqu'un président des États-Unis est élu, en général, les journalistes, les photographes vont prendre des photos avant que les candidats soient élus président, parce qu'après, ben, il y a tellement d'agitation que c'est plus possible de prendre des photos. Alors quand Clinton avait été élu, ben, le photographe avait pris avant quand il était candidat, et puis quand il a publié ceci dans son magazine et autres, il a eu un doute, il s'est dit, mais est-ce que j'ai le droit de dire que c'est la photo du président? Il n'était pas encore élu. Des journalistes qui font leur boulot de manière honnête. Alors il a contacté un prof de philosophie de New York, à Columbus University. Il a dit, mais est-ce que je peux dire que c'était le président? Et lui, donc selon sa vision philosophique, il a dit, oui, on peut dire. Même une photo de Clinton à l'âge de 20 ans, c'est une photo du président. Voyez, donc il y a bien ce questionnement, qu'est-ce qui va le définir? Dans la tradition grecque, il y avait une anecdote assez amusante. On dit que les Athéniens avaient gardé le bateau de Thésée. Quand Thésée était revenu, ils l'avaient gardé parce que pour eux, c'était quelque chose de très important. Mais évidemment, comme il finissait par pourrir un petit peu, donc on changeait les planches les unes après les autres. Mais c'est arrivé un jour où il n'y avait plus aucune planche d'origine. Puis on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment le bateau de Thésée? Mais il n'y a plus rien. Où est-ce que ça allait pas? Et un philosophe écossais s'est dit, peut-être qu'on a pris toutes les vieilles planches, puis qu'on a construit encore un autre bateau à côté. Alors lequel est le bateau de Thésée? Celui qui a les planches d'origine, mais qui n'est pas au lieu d'origine, celui qui est au lieu d'origine, mais qui n'a pas les planches d'origine. Donc, où se trouve, vous voyez, quelque chose qui est composé, où est-ce que ça se trouve vraiment? Donc là, dans le système d'explication qu'on a, ben on dirait, ben, finalement, c'est une transposition, le bateau de Thésée, c'est une transposition de quelque chose, ici, de la perception, de planches à ranger, et puis, ça va dépendre des conventions. Si, dans le fond, les Athéniens disent « c'est ce bateau-là », alors ça sera ce bateau-là, puisqu'on est tombé d'accord dessus. Il n'y a pas d'atome de bateau de Thésée qui serait authentique. De toute façon, c'est relatif. Donc c'est relatif. Si on décide, voilà, c'est celui-ci, à ce moment-là, ça en fera le bateau de Thésée. Puisqu'il n'y a pas seulement les planches qui en font le bateau de Thésée. Il y a le fait de le reconnaître comme tel. Alors si on reconnaît celui-ci comme le bateau de Thésée, alors ça sera le bateau de Thésée. Parce que dans le fond, il n'y en a pas. Quel bateau? Il n'y a que des planches. Il n'y a pas de bateau. Donc de toute façon, comme il n'y a pas d'essence, ça, relativement, on aura le même droit de dire celui-ci ou celui-ci, dans la mesure où on décide, alors si les Athéniens décident, c'est celui-là, alors ça sera celui-là. Ce qui va déterminer ici, c'est aussi le fait qu'on soit d'accord pour appeler ceci de cette manière-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose d'ultime. Ici, on a un élément composé, on ne peut pas dire, si on veut l'analyser, on ne peut pas dire que c'est le bateau de Thésée d'origine. Quand on a toutes les planches d'origine, moins une, ça fait rien, c'est encore le bateau. Moins deux planches, c'est encore le bateau. Moins trois planches, encore. Quatre, ah, alors là, je ne sais plus. Ça voudrait dire que si c'est au bout de quatre planches que c'est plus le bateau, c'est la quatrième planche qui en faisait le bateau de Thésée. Alors on a quatrième planche, on dit voilà le bateau de Thésée. Mais non, ça, tout ça n'a pas de sens. On voit bien qu'on le trouve nulle part, dans aucune des planches. Il est nulle part retrouvé. Donc, si on revient au corps, ben voilà, le corps c'est moi, on s'identifie, on peut se regarder dans le miroir, etc. Voilà. Mais, bon, alors déjà, évidemment, quand on change un peu d'apparence avec l'âge, voilà, ben c'est, est-ce que c'est toujours moi? Mais quand même, je ne sais pas exactement ce que j'étais à l'âge de 5 ans. Bon, heureusement, mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Et le problème pourrait se poser si, pour une raison ou une autre, disons, je perdais une jambe, un bout de jambe. Mais est-ce que c'est toujours moi? Et si c'est pas moi, est-ce que le moi, il est parti, il était dans ce bout de jambe qui a disparu? Se rend bien compte que le corps n'est pas le moi, mais c'est une manière dont on peut parler, à juste titre, conventionnel, on peut parler de ceci, parce que justement, puisque c'est une vérité conventionnelle, c'est-à-dire une manière de parler, alors on peut parler même quand le corps change, on peut parler à juste titre de moi. Mais si c'était une réalité corporelle, si cette réalité corporelle était ultime, alors il ne pourrait pas changer. Parce qu'à ce moment-là, quand il change complètement de 5 ans à 50 ans, alors c'est plus le même, donc ça pourrait plus être au même titre le moi. Ça est au même titre dans la mesure où c'est une manière de parler, une convention. Si le moi existe relativement, on n'est pas dans un problème. Si on veut le trouver ultimement, on est dans des contradictions. Et on se rend bien compte dans la discussion, on voit le questionnement, on a vu Camus et autres, questionnement, si on veut en trouver quelque chose d'ultime, alors on est vraiment pris en défaut. Si on dit, ben voilà, c'est une manière, une transposition, une convention, à ce moment-là, on n'est plus dans cette difficulté. De la même manière pour les états mentaux, les expériences mentales ou les émotions. Est-ce que si je suis joyeux, est-ce que je peux aussi être triste? Est-ce que c'est le même moi qui serait joyeux ou triste? On se rend bien compte qu'il y a tristesse et joie et que je peux mettre moi sur la tristesse ou moi sur la joie comme je mettais moi sur mon corps à 5 ans ou à 50 ans avec le même droit. Pourquoi? Parce que la tristesse ou la joie n'est pas le moi, mais il y a une manière de parler des états mentaux qui me traversent. À ce moment-là, j'ai le droit de dire je suis triste, je suis heureux. Parce que justement, c'est une vérité conventionnelle. De la même manière pour les perceptions, j'entends, je vois. L'impression que c'est un je qui voit. Mais la vision, elle suffit à voir. Le je, qu'est-ce qu'il rajoute à cette histoire? Si le je n'est pas la vision, alors il voit rien du tout. Et si le je, il voit, il n'a pas besoin de la vision. Donc ces manières qu'on a de parler qui sont justes. Mais elle souligne toujours le fait que le je ou le moi n'est pas une vérité ultime. Il n'y a rien qui est là, il n'y a pas un atome de moi que l'on peut trouver. Manière juste de s'exprimer. Dans ce complexe, la tradition bouddhique le détermine par ce qu'on appelle les cinq agrégats du corps, de la perception, des sensations affectives, des émotions et autres, tout ce flux de constituants qui est le support, qui est comme les planches du bateau de Thésée, qui est ce qui reçoit ce terme « je » et « moi » de manière juste. D'ailleurs, si on pensait que « je » ou « moi » est vraiment quelque chose d'ultime, c'est-à-dire quelque chose qui, je l'appelle à trouver la bonne manière française d'exprimer ça. En anglais, on dirait that stand for, hein, quelque chose qui est là, qui manifeste. Alors, s'il y avait vraiment ce je, ce moi qui est là, ça poserait un problème, parce que dans ce cas-là, ce je ou ce moi ne pourrait s'appliquer qu'à moi. Vous n'auriez pas le droit de dire moi quand vous parlez de vous-même. Je suis désolé, moi, c'est ici. J'ai pris le premier, après des milliards de personnes. Mais enfin, donc, on ne pourrait pas dire ceci. Donc c'est bien parce que c'est quelque chose de relatif, de conventionnel, que chaque personne, à juste titre, a le droit de dire je et moi en parlant d'elle-même. On trouve jamais bizarre quand une personne dit je et moi, seulement quand elle le dit trop souvent, montre pas ça bizarre. Et c'est juste. Parce qu'il n'y a pas d'atome particulier qui représente le moi. C'est une manière de parler qui est juste dans tous les cas. Donc lorsqu'il y a confusion, lorsqu'on prend ce je et ce moi pour une vérité ultime, alors ça, c'est vraiment le moment où la prison est en train de se refermer. Parce que lorsqu'on pense que ce je et ce moi est une vérité ultime, c'est quand même assez ennuyeux quand il vieillit. Qu'un organisme vivant, avec tous ses aspects, etc., évolue, c'est tout à fait normal. Mais moi, non, ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose de très bizarre. Vous voyez, on est constamment, dans le fond, mis en porte-à-faux. On est pris en défaut. Bataille disait, la mort révèle l'imposture de la réalité. La mort révèle aussi l'imposture de ce moi qui existerait ultimement, parce que s'il existe ultimement, il ne peut pas disparaître. Donc on est constamment mis en défaut quand on croit que ce je est une vérité ultime, on se rend compte qu'on se heurte constamment à la réalité. Mais comme on est entêté, c'est la réalité qui joue pas. Le moi, lui, il a raison. C'est la vérité ultime. Donc lorsque le Bouddha parle de se libérer de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, ça n'a aucun sens. On ne peut pas se libérer de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va pouvoir trouver une porte de sortie qui n'est pas la mort? C'est absurde. Ça veut simplement dire que lorsque on ne croit pas que ce flot qui nous constitue corporellement, psychologiquement, mentalement, que ceci est un moi qui existe ultimement, que ce moi existe ultimement réellement, à ce moment-là, réalisant qu'il n'y a pas un moi qui est vraiment venu à existence ultimement, comme une entité qui existerait, alors cette espèce d'investissement démesuré par rapport à cette transposition dans le moi, disparaît. Ce qui ne se libère de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, c'est ce moi qui n'existe pas ultimement. ce moi ultimement qui n'existe pas ultimement est pas soumis à la vieillesse, la maladie et la mort. Et ça, c'est pas juste une question philosophique. On dit voilà, on a lu Camus, etc. C'est quelque chose qu'on éprouve dans la méditation profondément lorsque tout d'un coup on ne s'arrête pas à ce niveau de transposition, mais qu'on peut être dans l'expérience elle-même avant toute transposition et qu'on se rend compte que les expériences de perception, de vision, quand dans la vision il n'y a que la vision, comme on disait dans le sutra, donc tu ne seras ni ici ni là, il n'y a pas de je ni ici ni là qui existerait réellement. À ce moment-là, le Bouddha dit, c'est la libération. Parce que je n'adhère plus à quelque chose qui soudainement disparaîtrait. Donc ceci est évidemment ce qu'il s'agit d'explorer dans la méditation. En ne se perdant pas dans les transpositions constantes de ceci, cela, ou je suis triste, ou je suis joyeux, je suis tranquille, en restant le plus proche possible de l'expérience. Une des transpositions, peut-être les plus fortes, les plus importantes, c'est la transposition de la conscience en je ou moi. Quand la conscience, on fait cette transposition, et on croit tout d'un coup que le je est la conscience. Alors que c'est qu'une transposition. Le je, c'est une transposition de la conscience qui permet de la mettre au niveau de, j'allais dire, de la multiplicité. Mais c'est quand cette conscience qui n'est pas tangible, qui n'est pas localisable, elle est transposée dans cette notion de je, de moi, elle est en rapport à un autre toi, d'autres toi, etc., elle peut avoir une vraie communication. Donc cette transposition est juste, mais quand on prend le je, la transposition au je-moi pour la conscience, à ce moment-là, il y a une grande confusion. Parce que souvent, les gens disent, mais alors, bon, s'il n'y a pas de je, s'il n'y a pas de moi, qui est-ce qui médite? Fait la confusion. S'il n'y a pas de je, pas de moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience. Donc il y a dans la tradition bouddhique de nombreux textes qui parlent de ceci. Il y en a un que je trouve assez remarquable, qui est le Milindapada. C'est un texte très ancien qui met en scène un roi grec qui s'appelle Ménandre et puis un moine brillant qui s'appelle Nagasena. Il y a toute une histoire, un contexte autour qui est assez magnifique, mais Ménandre, ce roi grec, c'était un grand penseur, un grand philosophe, et qui adorait le débat philosophique, adorait la discussion religieuse. Et puis il se lamentait parce qu'il avait déjà réglé son compte à tout le monde, il n'y avait plus personne qui était au niveau de la discussion. Donc, il n'y a plus personne dans son royaume qui est capable de venir discuter avec lui, enfin qui arrive à maintenir une discussion. Mais il avait entendu parler de Nagasena, ce moine qui était au Punjab. Et il l'a invité à venir parler avec lui. Il s'est dit, voilà, là, il y a vraiment quelqu'un avec qui discuter. Et le sutra, il décrit, quand le roi s'approche de Nagasena, venu, c'est un moine, donc il était autour d'autres moines. Voilà, donc, en général, un moine, ça ressemble à un autre moine. Hein. Bon, ils n'ont pas de coupe de cheveux, ils ont la même habit. Et il arrive près avec son char, il arrive près de l'endroit où Nagasena avec les autres moines, et tout de suite il le reconnaît. Il le reconnaît et il est pris de terreur. Alors lui qui pensait que personne ne pourrait le vaincre, tout d'un coup il se rend compte que là il a vraiment trouvé un opposant. Donc le texte le décrit un petit peu. Tout d'un coup il sent dans son corps qu'il reconnaît Nagasena. Alors ils vont commencer à discuter et c'est assez extraordinaire cette discussion qu'ils ont à propos de beaucoup de sujets, mais notamment au sujet du moi. Il lui demande, le roi, il dit comment t'appelles-tu, Nagasena? Puis Nagasena, il dit, ben voilà, on me connaît sous le nom de Nagasena. C'est ainsi que les gens m'appellent, c'est ainsi que les gens me désignent. Elle dit, ben voilà, les gens, les parents donnent comme nom aux enfants. Alors, ils donnent des noms de l'époque, hein, Surasena, Virasena, Siasena, etc. Ben moi, j'ai reçu, c'est une notion, c'est juste, là, il dit, voilà, c'est juste quelque chose de relatif. Voilà, ben moi, on m'a appelé Nagasena. Mais il dit, il y a rien qu'on peut trouver comme Nagasena. Alors le roi, il regarde tout le monde, il dit, voilà, voilà un moine qui s'appelle Nagasena, il dit, mais on ne peut pas trouver Nagasena là. Je veux dire, quand même, il raconte des histoires. Voilà. Si c'est lui qui vient pour soulever le débat avec moi, alors à qui est-ce qu'on a affaire? Donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'ironie, là, il essaye de... On est dans un jeu télévisé, quoi. Il n'y avait pas la télévision, mais enfin, on est un peu dans ce truc-là, quoi. Et alors, le Nagasena... Il va interpeller le roi et dire, ah, mais voilà, sûrement que vous n'êtes pas venu à pied. Il dit, bon, un roi, ça ne se déplace pas à pied. Il dit, parce que votre majesté va pas quand même marcher dans le sable brûlant et puis où il y a quand même des cailloux pointus, etc. Donc, vous n'êtes pas venu à pied. Et puis, il dit, non, moi, je ne viens pas à pied, je suis venu en char. Alors, Nagasena, voilà, mais ah, vous dites que vous êtes venu en char, mais c'est quoi ce char sur lequel vous êtes venu? Alors, il va analyser le char. Il dit, ben voilà, le char, est-ce que c'est les roues? Est-ce que c'est le timon? Est-ce que c'est le plateau? Puis le roi dit, non, c'est pas les roues. C'est pas le timon. C'est pas le plateau. Alors, il cherche, Nagasena lui pose. Il dit, alors, je vous dis pas tous les parcelles de chariots qu'on peut découvrir dans le texte, mais enfin, il ne le trouve pas. Et puis, Nagasena lui dit, alors est-ce que c'est l'ensemble de toutes ces choses-là? Puis non, c'est pas l'ensemble, parce qu'on pourrait imaginer ces ensembles de manière différente. Et il dit non. Le roi dit, c'est une manière de parler d'un ensemble de choses. On l'appelle un char ou un chariot, mais enfin, il n'y a rien, il n'y a pas un atome, on peut dire, voilà le chariot, il n'y a pas une partie qui est le chariot. Alors Nagasena, il appelle tous les autres, il dit, voilà un roi qui prétend qu'il est venu en chariot, on n'en trouve même pas le chariot. Comment vous voulez parler avec quelqu'un qui prétend venir en chariot? Il n'y a rien du tout. Et Nagasena continue, eh bien, c'est la même chose. Il dit, vous pensez qu'il y a là un Nagasena, mais Nagasena, c'est le mot, c'est la manière dont on parle de cet être constitué d'éléments corporels, mentaux, etc., bien qu'il n'y ait rien qu'on puisse désigner comme une parcelle de Nagasena, on parle, à juste titre, on parle de Nagasena, on nomme Nagasena, c'est une manière conventionnelle de parler de cet ensemble ici, corporel. Donc ici, on a une analyse à nouveau de qu'est-ce qui est vraiment là. Ben, on trouve c'est une manière de parler judicieuse, c'est une vérité conventionnelle, mais ultimement, on trouvera rien. Donc ça, on est dans la tradition bouddhique, tradition bouddhique aussi primitive. Mais là, si on reprend l'exemple du chariot, puis, oui, d'accord, on a compris, mais il y a quand même des roues, il y a des éléments. Donc, le chariot n'existe pas comme vérité ultime. Donc, on va dire les roues existent. On va dire non, les roues, ça va pas, c'est fait d'un moyeu, c'est fait d'une jante. D'accord, mais on va quand même arriver à des éléments. On va dire il y a des éléments qui seront là. Ultimement, si on analyse, on va quand même trouver finalement, je sais pas, ce ne sera pas les molécules de bois, mais voilà, on aura les atomes comme existence ultime. Au-delà de quoi on ne peut pas passer. Mais les textes les plus tardifs, ils vont questionner ceci. Ils vont dire, est-ce que vraiment on va trouver quelque chose finalement? Peut-être que si on cherche jusqu'au bout, il n'y aura plus rien. Il n'y aura rien du tout. Voilà, on va pas s'arrêter en chemin, parce que si on s'arrête, on dit, ben voilà, il y a les quatre éléments, l'élément terre, eau, feu, air. On dit, oui, mais un élément, si un élément, il existe de manière tangible, ben, il faut qu'il ait une partie gauche, une partie droite, une partie avant, une partie arrière. Donc il est déjà. On peut le diviser. Donc les développements plus tardifs, ils vont se dire, est-ce que vraiment, en fin d'analyse, on va trouver quelque chose? Oui, on a poussé simplement les premières réflexions bouddhiques qui sont très, très spécifique, on dit, ben on va, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? Pourquoi on ne va pas pousser jusque au fond l'analyse et se demander, et si finalement on ne trouvait rien du tout? Qu'il n'y aurait qu'une apparence conventionnelle comme ça, mais que ultimement on n'arrive à rien du tout. Bon, on te pose la question. Donc voilà, on va aborder cet aspect-là demain, qui est assez typique du questionnement de la pensée Imadhyamaka. Qu'est-ce qu'on trouve en fin d'analyse? Qui est évidemment le grand sujet, si vous voulez, du Vimalakirti. On a vu plusieurs aspects, donc encore un aspect là dans la tradition, et puis le fait d'essayer de le pousser un petit peu plus profondément. Si jamais il y avait encore des choses à clarifier.